Pour cela, nous sommes vos ennemis. Nous sommes contre vos idées, contre vos pensées, vos obscénités, votre chrétienté, votre violence. Nous refusons toute idée d'une vie qui serait fatalement réduite au minimum vital.
Un mot trop et c'est un mort tout en orange.
Les flics tabassent, sortent le P38 et les flics qui flinguent toute classe.
Les flics, la police et les vices.
Et par des keufs se font caner, c'est connu, dans le Parisien t'as des histoires comme as.
La route du guette, mec, les flics aussi. Vois du rouge, aussi rouge que vos bavures.
J'ai mal au cœur quand ta frère meurt, un accident de travail, à t'en faire peur de sortir sans voir quoi.
Jeudi 31 mars, vous écoutez Radio Dio 895 FM et c'est midi, vous écoutez l'émission du numéro 0, l'émission qui va à volo. Et aujourd'hui, alors bon, pour parler vite fait de numéro 0, à la base c'est un site internet de publication participative, c'est-à-dire que si vous voulez, si vous êtes concerné par l'actualité ou que vous êtes dans l'actualité, vous pouvez publier vous-même vos infos sur le site lenumero0.l'autre.net. C'est aussi une publication papier à parution aléatoire que trouve dans différents lieux militants et autres bars, et aussi une émission radio un jeudi sur deux, rediffusée le jour même à 17h. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet principal pendant toute l'heure, avec André Perrache qui vient nous parler de son livre qui s'appelle « Fragments de discours sur les mondes ouvriers dans le bassin stéphanois ». Voilà, ça c'est le sous-titre, et le titre je l'ai oublié, mais bon, et voilà, peut-être que Elsa nous... C'est parti, excuse-moi, j'avais pas mis les micros.
Ok, voilà, là je suis en tête. Donc, comme ça, moi j'ai le livre sous les yeux, je peux redonner le titre plus exact. C'est « Chair à charbon, fragments de discours sur les mondes miniers dans le bassin de la Loire ». Voilà. Donc, pour préciser aussi que c'est une émission qui est faite en collaboration avec le Grémos, comme on le fait de temps en temps. Donc, le Grémos, c'est le groupe de recherche et d'études sur les mémoires des mondes ouvriers stéphanois. Et bah justement, jusqu'à maintenant, dans ces émissions, on a beaucoup parlé de lutte et de mouvement et de grève. Et alors qu'en fait, le Grémos, c'est les mondes ouvriers, c'est pas que les grèves. Et justement, aujourd'hui, on va pas parler de grève ou pas que de grève, mais aussi de la vie des gens, quoi. Parce que c'est aussi un terreau des luttes. Enfin bref, et bah, pas que, et de plein d'autres choses. Bref, ça, c'était une petite précision. Donc aujourd'hui, on va parler des mondes des mines avec André Perrache, qui, entre autres choses, a fait des travaux de recherche depuis 1993, c'est ça, sur les mondes des mines. Donc déjà, bonjour André.
Bonjour.
Donc, on commence un peu à l'arrache entre les problèmes techniques et les petits retards, etc. Donc voilà, toi, tu as sorti un livre en décembre, qui est un des fruits d'un travail que tu mènes depuis 1993. Donc, tu es poète sociologue, entre autres. Et donc, voilà, moi, la première des choses dont... Enfin, là, on voulait commencer. On va lire plus tard dans l'émission. Enfin, tu vas lire les extraits de ton livre. Et on va aussi donc, parler de tout ton travail et ta démarche. Et bah moi, l'une des choses avec qui, sur laquelle j'avais envie de commencer comme ça, brûle pour point, c'est que donc, c'est un travail de sociologie, entre autres. Et la sociologie, moi, comme je la connais, c'est on va faire, on fait une étude et après, on fait des articles et une thèse qu'on présente. Et puis, on va dans les colloques et on parle avec les universitaires, et, etc. Enfin, je dis ça, c'est un peu caricatural, mais c'est classique. Et déjà, toi, tu n'as pas trop eu cette démarche-là. Voilà. Donc, je pense que tu vas nous l'expliquer un petit peu ce que tu as fait. On va repartir du point de départ. Qu'est-ce qui t'a amené, enfin déjà si tu veux te présenter, qu'est-ce qui t'a amené à travailler là-dessus? Comment t'as commencé?
Alors moi j'ai commencé en 1993. C'était une démarche universitaire au départ. Hein. C'était très, très encadré. Donc ce cursus de licence, maîtrise, DEA, école doctorale, donc, qui a duré quand même très longtemps, puisqu'après... Après mon école doctorale, j'ai continué ma recherche et je continue toujours de travailler cette recherche sur ce que j'appelle les mondes miniers, pour faire simple. À partir de là, ce travail de recherche, moi, il a beaucoup bougé, beaucoup évolué. C'est pour ça que je dis que je suis poète et sociologue, parce qu'à un moment donné, il a fallu s'en expliquer. Ma sociologie, je la mets en scène. Je la mets en scène à travers la poésie et à travers le théâtre. Et donc, effectivement, ces 17 années de recherche sur, qui ont donné ce livre, Cher à Charbon, ont donné aussi un spectacle qui s'appelle, de manière éponyme, Cher à Charbon. Ces deux sont intimement liés. Dans un rêve un peu fou, l'idée était de présenter mon spectacle, et quand les gens achetaient le billet, ils avaient le livre avec. Dans notre société capitaliste dans laquelle nous sommes... c'est pas pensable, ça l'était pas, en tous les cas. Mais il se trouve que quand j'ai présenté mon livre le 4 décembre, enfin plus exactement le 3 décembre, à Corio, j'ai présenté une partie de mon spectacle, ça a duré 25 minutes. Donc les gens ont pu assister à la fois au spectacle et avoir le livre. Et j'ai trouvé que c'était que j'avais sûrement raison d'être dans cette démarche-là, même si pour moi c'était très très difficile à la fin du spectacle de parler de mon livre, parce que j'étais encore dans mon spectacle, quoi. Alors c'est vrai que c'est une démarche de sociologue, mais c'est la démarche qui est une démarche de sociologue. Mon livre, je dirais que c'est pas un livre de sociologue, c'est un livre de poète et qui fait une étude sur le travail qu'il a fait lui-même en sociologie, en sciences sociales, c'est-à-dire l'étude des faits de société et effectivement le monde des mines et les mineurs de charbon sont un fait de société, ils appartiennent à la société dans laquelle on est et dans laquelle certains d'entre nous vont continuer à vivre.
D'ailleurs, pour resituer, tu parles de quoi dans ton livre? Qu'est-ce qu'on y trouve, ainsi que dans ton spectacle d'ailleurs?
Dans mon livre, ce que j'essaye déjà, mon livre, il est fait en deux parties. D'abord, il est fait en forme de fragments. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le livre, on n'est pas obligé de le prendre du début à la fin pour le lire. On peut le prendre à n'importe quel endroit. Et en lire des bouts, c'est ça le fragment un peu. Mon livre, il essaye de montrer, donc il y a une partie qui est une partie de témoignage des mineurs que j'ai eu en entretien, un certain nombre de mineurs, j'ai dû en avoir une centaine en tout, et j'ai jamais livré mes entretiens, pour plein de raisons personnelles, affectives, subjectives, pas du tout scientifiques, bien sûr. Et là, j'ai décidé d'en livrer une partie, très peu travaillée, le plus brut possible, mais que ça soit quand même lisible par tout un chacun. Et une autre partie qui est une partie de discours, de mon discours à moi, de mon étude, de mon point de vue, qui n'est pas une vérité, je ne crois pas à la vérité, même si des fois je parle un peu fort, on a l'impression que j'énonce des vérités, ce n'est pas le cas du tout. Je suis dans un travail de critique et de réflexivité critique par rapport à moi très fort. Donc c'est un travail de comment penser ces mondes, comment penser ces hommes que j'ai rencontrés, et que j'ai rencontrés depuis, parce qu'il faut bien en parler, depuis très très longtemps, depuis ma naissance, puisque je suis fils et petit-fils de mineur. Donc mon livre, il essaye de parler un peu différemment, je crois, de ces mondes-là, de déconstruire un peu un certain nombre de clichés, et de mettre en scène des personnes, et non pas des collectifs, des groupes. Donc j'essaye de montrer comment le corps du mineur est pris dans sa corporation, mais comme il est aussi un corps à lui, un corps d'individu, un corps, pas l'individu néolibéral, hein, bien entendu. Hein. Quand je parle d'individu, c'est bien l'individu stirnérien, c'est-à-dire je suis au monde, moi, en tant qu'être humain. Donc mon livre, il essaye de parler de ça, de cet individu qui un jour, qui va passer de l'être mineur, de l'être homme du jour à l'être mineur de fond par ce que Simondon appelle une individuation, mais pour le dire autrement et simplement pour tout le monde, par une transformation qui va le faire devenir mineur de fond par la cage qui va descendre, qui va l'emmener à 700 mètres, 1100 mètres, 1000 mètres de profondeur. Donc mon livre, il essaye de montrer ça, de montrer comment ce corps, il est mis en souffrance volontairement, parce que c'est une manière d'exister, c'est une manière aussi un peu particulière de lutter contre ce qui envahit, contre le monde qui est envahissant. C'est une manière de prendre sa place dans une société qu'on n'aime pas forcément, et on va trouver une certaine puissance par le travail qu'on mène au fond de la mine, même si c'est un travail de bagnard, comme ils le disent eux-mêmes, certains en tous les cas, puisque chaque fois que moi je vais parler des mineurs, bien entendu, il faut être clair, je vais parler des mineurs que j'ai rencontrés, moi, et pas des mineurs dans un terme générique. Je ne parle pas des mineurs chinois, des mineurs japonais, je parle des mineurs de la Ricamari, et essentiellement ceux que j'ai rencontrés à la Ricamari et certains autres à Saint-Étienne.
Et y a quelque chose dans le livre qui parle de... Enfin, ça parle de cette souffrance et en même temps de cet attachement à ce travail. Il y a beaucoup de choses qui pourraient paraître comme des paradoxes qui sont un peu creusés. Par exemple, la question de la fermeture des mines. La fermeture des mines, en même temps, elle est vue comme presque une libération parce que ce travail au fond des mines était terrible. Et en même temps, elle est vécue comme quelque chose de très triste ou presque comme une blessure pour ceux qui ont dû quitter la mine. Est-ce que tu peux parler un peu plus de cette fermeture, la reconversion?
Oui, parce qu'il faut imaginer qu'on est au-delà de ça. On est au-delà du bien et du mal. On est au-delà de ces clichés-là, quoi. On est dans quelque chose que moi je nomme la variation. C'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas, qui existe simplement par le fait que je le pense et que je le vis. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut avoir trouvé du plaisir à être au fond d'une mine, à travailler avec son équipe, avec ses collègues de contrée. Et c'est un plaisir réel, c'est un plaisir que certains arrivent à donner. Et en même temps, avoir une peur immense de descendre et aller de ce va-et-vient qui fait qu'en étant ça, on existe. On existe en tant qu'homme, même si le travail paraît, ce travail-là paraît nier cette condition d'homme et rapproche à notre condition primaire, puisque nous sommes des animaux, à celle de l'animalité. La fermeture, c'est du même ordre, je dirais. C'est du même ordre, multiplié par 100, par les années de travail au fond. Avoir travaillé au fond d'une mine pendant 30 ans ou 40 ans, et puis derrière, tout arrêté, non volontairement, parce que le problème, il est là. Et il est que c'est un arrêt unilatéral, décidé par l'État français, et les mineurs de fond... que j'ai rencontré ne comprennent pas. C'est passé de je suis reconnu comme un être social fort, puissant, puisque je suis mineur de fond et que je vais arracher cette cargaison magique dont les gens vont avoir tant besoin dans notre région à un moment donné, c'est-à-dire le charbon, ce qui va chauffer, ce qui va faire fonctionner les centrales. Et puis passer à « je ne suis plus rien », parce qu'effectivement, c'est comme ça que certains le vivent. Je ne suis plus rien. Alors, je le disais tout à l'heure, je le redis, je prends l'image qui fait dresser les cheveux à certains, l'image de Rambo dans Rambo 1, quand il rentre du Vietnam, et à la fin, il dit pendant des années, j'avais des millions sous les mains, sous les pieds, et maintenant, j'ai plus rien, je ne suis plus rien. Et c'est un peu similaire, quoi. Cette puissance minière, cette puissance d'être mineur de charbon et mineur de fond, du jour au lendemain, on a l'impression, les mineurs ont l'impression qu'elle est gommée, qu'elle n'existe plus, et on leur dit que c'est fini, mais qu'ils vont conserver les acquis, ces fameux acquis qui sont le bois, le chauffage, et certains les maisons qu'ils vont pouvoir acheter. Mais ça ne paye pas la dette, parce que cette dette, elle est irrécouvrable. C'est-à-dire que personne ne peut la solder. Personne ne peut dire « je vous donne tant », comme on l'a dit au moment de la conversion, de la reconversion, et vous partez. Non. Pour que la dette soit soldée, en réalité, il faut que le travail au fond des mines continue. Et de mon point de vue à moi, c'est monstrueux.
Oui, c'est ça, c'est quand en même temps, tu dis qu'il y a une certaine puissance à être mineur, mais tu dis aussi que le travail au fond de la mine, c'est monstrueux d'avoir organisé ce travail à grande échelle aussi.
Oui, mais la puissance et la monstruosité vont bien ensemble souvent. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est antinomique, enfin, me semble-t-il. Hein. Simplement, c'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre pour tout un chacun, mais c'est difficile à comprendre aussi, à penser pour le mineur lui-même, je crois. En tous les cas, mon père, par exemple, avait une difficulté à penser ça comme ça, quoi. Comment je peux, après avoir été pris sous un éboulement, avoir été laissé au fond par un camarade, comment je peux penser redescendre, continuer Alors c'est vrai qu'en fin de vie, mon père me disait, s'il fallait recommencer les mines, j'y retournerais, mais pas comme je l'ai fait. J'y retournerais pour défendre les ouvriers, puisque mon père a fini délégué mineur. Donc c'était plutôt l'image de défendre, donc la défense de ceux qui souffrent, de ceux qui vont pas bien. Donc, ça peut paraître paradoxal, et c'est paradoxal d'aller travailler au fond d'une mine et de dire que j'aime parce que je suis quelqu'un, quitte à en mourir.
Il y a une autre chose sur laquelle je voulais revenir, en fait, c'est, toi, de toute façon, tu t'attaques un peu aux clichés qu'il peut y avoir sur la mine et aux mines et aux mythes. Mais il y a un des clichés, enfin une des images qu'on peut avoir, c'est que les mineurs, c'est un monde extrêmement solidaire. Et toi, parfois, tu dis qu'il n'y a pas de solidarité au fond des mines.
Je ne le dis pas comme ça. Ouais. Je dis qu'il y a la solidarité, bien entendu. Il y a la solidarité qui est énoncée en tant que telle. Et ils le disent dans leurs entretiens. Ils disent, mais si je ne vais pas aider celui qui est là, quand j'aurai un problème, il ne viendra pas m'aider. Pour moi, ce n'est pas ça, la solidarité. Mais bien sûr, parce que j'ai une autre vue de la solidarité. Pour moi, la solidarité, il n'y a pas de contrepartie. Alors, on va me dire, ah, mais non, ce n'est pas ça. Oui. Alors, si la solidarité, c'est je le fais parce que si je ne le fais pas, le jour où j'ai un problème, personne ne viendra, ça ne m'intéresse pas. Et c'est cette solidarité-là qu'il y a, au fond. Voilà. Alors, je ne veux pas reconstruire le mythe, un autre mythe derrière tout ça. Hein. Mais je continue à dire, voilà, il y a des exemples de gens pris sous des éboulements qu'on laisse au fond parce qu'on a peur, pas parce qu'on est mauvais, pas parce qu'on est quelqu'un d'impossible. Non, parce que c'est une nature qui est comme ça. On est fragile aussi. On se met pas forcément en danger pour l'autre aussi simplement, aussi facilement. La solidarité, c'est un mot étouffant. C'est un mot cache-misère. C'est un mot qui cache tout. Il suffit d'être solidaire. Et sur l'extérieur, c'est un peu pareil. Voilà, il suffit de donner 10 euros et on est solidaire. Non, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Pour moi, la solidarité, c'est une façon de vivre, d'être au monde. Les mineurs de fond, leur être au monde, c'est un peu différent et un peu particulier. Il y a une solidarité au fond de la mine. Qu'est-ce qu'elle est ? Une solidarité que j'appelle par défaut. Ça fait hurler tout le monde, mais c'est une solidarité par défaut, bien entendu. Pour moi, mais qui est un regard très particulier sur la solidarité.
Ouais. Et une dernière chose sur laquelle je voulais revenir, je saute un peu du coq à l'âne, mais c'est vrai que moi j'étais surprise en lisant le livre, c'est qu'ils disent à plusieurs reprises, les mineurs, qu'ils étaient très bien payés. Et moi j'avais l'image de mineurs qui non seulement étaient hyper exploités, mais donc comme des gens très exploités, étaient très mal payés. Donc ils sont très bien payés. Ils étaient très bien payés.
Alors, faut revenir dans le contexte. Moi je fais un travail sur des mineurs qui sont nés dans les années 20, qui ont travaillé donc dans les années de la Deuxième Guerre mondiale. Et effectivement, après la Deuxième Guerre mondiale, au moment de la reconstruction de la France, les mineurs sont les premiers ouvriers de France. Ce sont les ouvriers qui sont les mieux payés. En tous les cas, ils font partie des ouvriers les mieux payés en France. Certains même vont faire une deuxième journée. C'est eux qui me le racontent. Je n'ai pas fait un travail de recherche d'une vérité sur combien sont payés les mineurs de fond. Je dis, voilà, les mineurs me disent que qu'après leur journée de fond, ils vont enquiller des bennes, comme on dit, aux joueurs, et se refaire un peu d'argent. C'est les premiers ouvriers de France, il y a des affiches qui apparaissent, devenez mineur de fond, premier ouvrier de France. C'est pour une période donnée. Maintenant, les mineurs à la retraite, la moyenne de retraite actuelle d'un mineur, les dernières publications que j'ai vues, doit être de 700 euros. Donc maintenant, on relativise tout ça. On remet bien dans le cadre très spécifique dans lequel j'ai travaillé.
Ok. Moi, je propose une petite pause musicale. Donc, tu nous as amené des morceaux de musique qui font partie de ton spectacle, si j'ai bien compris. Et donc, là, on va écouter Léo Ferré. Tu peux nous présenter un peu plus
Oui, la première partie de mon spectacle commence par un titre de Léo. Alors, c'est vrai que j'ai une relation particulière avec Ferré. On s'est rencontrés, j'avais 16 ans. J'ai vécu, disons, une bonne dizaine d'années auprès de lui, de manière différente. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a énormément compté dans ma vie d'adolescent et de jeune adulte, qui m'a ouvert encore plus à la poésie. Et comme je le dis, depuis, les choses ont changé et je vois l'écriture et les mots d'une manière un peu différente. Et c'est vrai que le titre préface de Léo, c'est aussi introduire la poésie dans cet ensemble de choses et dans mon travail plus particulièrement.
Ok, donc on écoute Préface de Léo Ferré.
La poésie contemporaine ne chante plus, elle rampe. Elle a cependant le privilège de la distinction. Elle ne fréquente pas les mots malfamés, elle les ignore. On ne prend les mots qu'avec des gants. À menstruel, on préfère périodique. Et l'on va répétant qu'il est des termes médicaux qui ne doivent pas sortir des laboratoires et du codex. Le snobisme scolaire, qui consiste en poésie, à n'employer que certains mots déterminés, à la priver de certains autres, qu'ils soient techniques, médicaux, populaires ou argotiques, me fait penser au prestige du rince-doigt et du baise-main. Ce n'est pas le rince-doigt qui fait les mains propres, ni le baise-main qui fait la tendresse. Ce n'est pas le mot qui fait la poésie, mais la poésie qui illustre le mot. Les écrivains qui ont recours à leurs doigts pour savoir s'ils ont leur compte de pied ne sont pas des poètes, ce sont des dactylographes. Le poète d'aujourd'hui doit être d'une caste, d'un parti ou du tout Paris. Le poète qui ne se soumet pas est un homme mutilé. La poésie est une clameur. Elle doit être entendue comme la musique. Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon prend le sien avec l'archer qui le touche. L'embrigadement est un signe des temps, de notre temps. Les hommes qui pensent en rond ont les idées courbes. Les sociétés littéraires, c'est encore la société. La pensée mise en commun est une pensée commune. Mozart et Morcel, accompagnés à la fosse commune par un chien et des fantômes. Renoir avait les doigts crochus de rhumatisme. Ravel avait dans la tête une tumeur qui lui suça d'un coup toute sa musique. Beethoven était sourd. Il fallut quêter pour enterrer Béla Bartok. Rutebeuf avait faim. Vignon volait pour manger. Tout le monde s'en fout. L'art n'est pas un bureau d'anthropométrie. La lumière ne se fait que sur les tombes. Nous vivons une époque épique et nous n'avons plus rien d'épique. La musique se vend comme le savon à barbe. Pour que le désespoir même se vende, il ne reste qu'à en trouver la formule. Tout est prêt. Les capitaux, la publicité, la clientèle. Qui donc inventera le désespoir? Avec nos avions qui damnent le pion au soleil. Avec nos magnétophones qui se souviennent de ces voix qui se sont tues. Avec nos âmes en rade au milieu des rues. Nous sommes au bord du vide, ficelés dans nos paquets de viande, à regarder passer les révolutions. N'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Les plus beaux chants sont des chants de revendication. Le vers doit faire l'amour dans la tête des populations. À l'école de la poésie, on n'apprend pas. On se bat.
Et voilà, donc c'était préface de Léo Ferré. Alors c'est marrant, la dernière phrase, c'est, elle est reprise dans un sample d'un groupe de hip-hop dont, sur lequel j'arrive plus à remettre le nom là, d'un coup. Ça m'a surprise. Donc voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Dio 89.5 FM à Saint-Étienne. Il est midi 27, vous écoutez l'émission du numéro 0 avec Le Grémos. Et donc aujourd'hui, on est avec André Perrache qui vient nous parler de son travail, notamment de son livre « Chair à charbon » et de son spectacle. Donc maintenant, après avoir un peu présenté de manière générale ton travail, on s'était dit que c'était pas mal si tu nous lisais des extraits de ton livre que tu as choisi. Donc,
oui, je vais commencer par un texte qui concerne la première partie, c'est-à-dire la partie qui est une partie de réflexion, qui est une partie de mise au point d'où je parle, d'où j'en suis, de tout ça. Avec mon frère, je fais partie de la génération de ceux qui ne sont pas descendus. Et nous n'en gardons aucun regret. Nous avons échappé au pire. Nous sommes les enfants de l'après, porteurs d'autres combats. Comme le souligne Miguel Benassayag, nous ne prenons pas l'héritage tel quel, comme pure et simple injonction de répétition éternelle d'une orthodoxie sacrée. Nous le recevons au contraire comme une précieuse boîte à outils. Je n'ai pas de sentiment conscient d'attachement à un devoir ou une obligation de mémoire. Je n'ai pas besoin de cela. Je réfute en mon encontre l'idée et la posture d'être en dette qui m'amènerait tout naturellement au devoir de mémoire. Je suis responsable de ma vie, de toute ma vie. Le devoir de mémoire et le type de durée qu'il instaure à l'intérieur du vieux paradoxe sceptique sur le temps, nous dit Daniel Colson, sont au fondement d'un marché de dupes où, au nom de sa capacité à se souvenir et à fonder dans cette mémoire son présent et son avenir, l'être humain est d'abord invité à reconnaître la radicale déficience ontologique du temps qui le fait vivre et à s'en remettre définitivement à la transcendance qui se nourrit de cette infirmité. Mon grand-père paternel avait été mineur de fonds, puis premier gouverneur. C'est en le côtoyant, étant enfant, que je fus confronté d'une manière pratique au sens du mot injustice et de son corollaire inéquité. Il les représentait dans toutes les odeurs nauséabondes sous la bannière de Pétain. Mon grand-père maternel était trimardeur, puis mineur de fonds et de jour. À l'aube d'un soleil nouveau, où il n'attendait plus rien de ce monde qui le prenait pour un hulu-berlu, il s'est enfui et s'est pendu avant la nuit. C'est auprès de lui que j'appris le sens de l'équité. Mon père était mineur de fonds puis délégué à la surface. C'est à ses côtés et avec son aide que je forgeais mon être insurrectionnel et libertaire. Ma mère faisait des ménages chez les bourgeois de l'époque et s'occupait de l'appartement HLM où nous habitions. Elle a toujours refusé que mon père soit mineur et n'eut de tranquillité que lorsqu'elle réussit à lui imposer de prendre sa retraite. Mon père a commencé comme toucheur au fond d'une mine de charbon à plus de 400 mètres du jour. Le toucheur, c'est celui qui mène le cheval dans les galeries souterraines. Et bien souvent, c'était un enfant. Entre le cheval et l'enfant, on peut penser que s'installe un pacte qui s'appuie sur une perte identifiable comme semblable ou d'égale importance. La perte d'un monde, celui du jour, à mi-temps pour l'enfant, à plein temps pour le cheval. À l'écoute des récits peu nombreux de mon père, j'ai pu écrire. Plus on s'enfonçait dans le sous-sol, plus je me rapprocherais du corps de mon cheval. L'odeur et la chaleur humide de son poil m'aidaient à avoir moins peur et me raccrochaient aux images du jour, du dehors, de mon enfance, qu'il me semblait être en train de perdre. Là-bas, à l'intérieur du sous-sol que certains appellent l'enfer noir, les corps des hommes et des animaux se mêlaient pour se confondre dans une unité charnelle, indifférenciant l'homme et l'animal, jusque dans les discours des mineurs qui remontaient du fond, avec leurs histoires racontées aux gens du jour. Je n'ai jamais connu de chevaux qui travaillaient au fond des mines. À ma naissance, l'ère de la grande industrialisation les avait déjà sortis de cet endroit. Malgré cela, mon enfance fut peuplée de cette odeur du crottin fumant que le cheval du laitier déposait lorsqu'il s'arrêtait devant la légie du petit bâtiment où nous habitions dans la cité HLM de la Croix-de-l'Orme, qui abritait de nombreux mineurs. Le cheval du laitier était ma première rencontre lorsque je partais à l'école. Il était une rencontre amicale et chaleureuse. Il trottine encore dans ma tête.
Ouais. Non, tu me demandais si tu pouvais continuer.
Oui, si je pouvais continuer.
Non, en fait, je te propose de continuer parce que je ne vois pas comment rebondir maintenant. Donc, allons-y.
Lors de mon travail de recherche universitaire sur les mémoires minières, il m'avait semblé retrouver, ou plus exactement, rencontrer de nouveau mon père, mais comme autre. Non pas comme un autre homme, mais comme une autre partie de cet homme des mines qu'il avait pu nous donner à voir. Ce sont les mines qui sont à l'origine de cette sensation, les mines qui, dans leur angoisse, dans leur agonie, leur mort annoncée et advenue, deviennent alors porteuses de renaissance. Bien avant la disparition de mon père, et plus que jamais aujourd'hui, je sais que les mines, durant mon enfance, m'ont spolié partiellement de lui en tant que tel, et qu'on lui ont ôté la plus grande partie de sa vie d'homme. Les traces ont accompagné sa vie après les mines comme des blessures béantes, impossibles à refermer et toujours difficiles à parler. À 12 ans, j'ai remonté mes premiers seaux de charbon jusqu'au troisième étage de l'HLM que nous habitions, après avoir rempli la cave des 2 tonnes de boulets ou d'anthracite. Plus tard, je rentrais le charbon avec des poubelles pour aller plus vite. Lourd était le bloc qui écrasait le mineur, ses gémissements inscrits d'une manière indélébile en son corps, ses rêves, son être enfoui et l'ombre qui s'enfuit.
Voilà, donc c'était un extrait de ton livre, André, de ton livre Chair à charbon, je rappelle. Moi, j'avoue avoir pas grand-chose pour rebondir tout de suite. Je ne sais pas si, Steph, en technique, tu as quelque chose à ajouter. On ne dirait pas. Eh ben, ouais, en fait, comme on avait prévu de lire 2 extraits, moi, je te propose de tout de suite enchaîner sur un 2e extrait, si ça te va.
D'accord. Alors, à l'intérieur, je veux juste préciser qu'à l'intérieur de... Je mêle à l'intérieur de mon livre des fragments poétiques aussi, hein, plus particulièrement poétiques, je dirais, parce que j'espère que mon livre a une forme d'écriture poétique aussi. Mais j'ai des fragments poétiques que j'écris, que j'ai intitulé « Poésie minière ». C'est une poésie que je suis en train d'écrire pour en faire un autre livre, et sous l'hétéronyme de Shiguma. Shiguma, c'est un autre nom, c'est mon nom de poète en japonais, qui veut dire « ours poétique ». C'est pour préciser qu'à l'intérieur de ce livre, il y a des moments un peu différents au niveau de l'espace de lecture. Ce monde perdu à jamais, que tu connais si bien et qui a fait trace, ces espaces infimes dans ta mémoire troublée, l'instant d'une main qui t'échappe, je ne voudrais plus qu'entendre l'appel de la forêt, bien au-delà de ces mondes nouveaux que l'on nous a construits et qui voudraient nous asservir. Il me reste ces odeurs, ces chagrins d'enfant que tu connais si bien. Il y a eu le temps de la naissance de l'homme mineur, mineur de fond, mythifié, détenteur d'une puissance, d'une force, puis le temps de la conversion et de la reconversion avec l'arrêt du travail aux mines. Et là, il me semble qu'il se soit opéré pour certains hommes un temps de rupture, profond, douloureux. Un retour peut-être à une certaine forme d'impuissance, qui sonne par là même la mort de cet homme anciennement advenu, pour le remettre dans une réalité qu'il ne semble plus connaître, qui n'est plus la sienne, un nouveau monde, où tous les repères ont disparu. Il est devenu un être fracturé, blessé, et le travail qu'il va devoir faire semble, dans un premier temps, s'apparenter à un travail de deuil, tant au sens psychanalytique du terme qu'au sens social. Mais sommes-nous vraiment face à une posture où l'objet de toutes les passions aurait disparu? Celle qui est couramment appelée la mine est-elle objet de la passion de la part de l'homme du fond et de l'homme du jour? Ou simple encodage social, obligation économique? Lors d'un travail avec des étudiants auxquels j'étais convié, une personne chargée de l'urbanisme et de la réhabilitation des quartiers affirmait « Aujourd'hui, à Saint-Étienne, le deuil de la mine est fait. » La question de la mort de la mine et de son deuil est bien présente, mais il me semble qu'elle soit encore du côté du mythe. Mythe de la mine comme personne vivante. Je vais questionner l'idée du don et de la dette, impossible à rendre, plutôt que du côté du deuil que je laisserai à faire pour les pères, les fils, les filles, les frères et les compagnons perdus au fond ou au jour. Les hommes des mines que j'ai rencontrés m'ont parlé du don de leur travail, de leur corps, de leur âme, faite à l'État français et avant aux compagnies, de tous les sacrifices, et que la dette n'a jamais été payée. Pour eux, l'État est toujours redevable. La mort au fond, les morts au jour, la décision vécue comme unilatérale d'arrêter l'exploitation du charbon rend cette dette irrécouvrable, même si certains peuvent imaginer qu'un contre-don ait été mis en place à travers ce qu'il est couramment appelé les acquis, sécurité sociale minière, bons de charbon et de bois, régime spécifique de retraite, rachat des anciennes maisons minières. L'idée que l'État se serait bien préoccupé des mineurs au moment des fermetures des mines par un système de conversion puis de reconversion pourrait aussi donner à penser que la dette est payée par le biais de la prime au départ. Mais cette dette semble bien prendre rhizome dans des terrains très anciens, en s'appuyant non pas uniquement sur des réalités palpables, mais plutôt du côté de l'habitus, dirait Bourdieu. Philippe Lucas, lui, dira « Dette toute morale alors, elle manifeste autant des relations de contiguïté que des rapports d'exploitation. Les mineurs ne demandent pas qu'elle leur soit remboursée, mais qu'elle leur soit comptée. L'endettement de la société à leur endroit ouvre une créance qui fonde ce que j'ai plus haut appelé un droit de suite. Certes, la dette dont il s'agit arme plus évidemment les discours privés, ceux des individus, que les discours syndicaux et collectifs. Elle renvoie, semble-t-il, à une logique qui est celle du droit privé plutôt qu'à la dialectique de la lutte de classe. L'État reste à jamais débiteur. Continuer le travail aux mines, continuer le travail aux mines. L'arrêter quand on veut, décider sans contrainte aucune, garder les acquis, les faire perdurer de génération en génération, comme le mythe mineur de père en fils. Il apparaît que c'est la seule possibilité de rester digne. Il semble que le contre-don ne peut que se situer de ce côté-là, ou ne puisse être entendu ou envisageable qu'avec tous ses préalables. Des mineurs que j'ai pu rencontrer, peu demeurent encore en vie. Bientôt, ils ne seront qu'imaginaires, et personne ne pourra décider à leur place de la posture à prendre quant à cette dette. Les fils, filles, petits-fils et petites-filles seront chargés de tout cela pour la reconduire un peu plus loin jusqu'à ce qu'elle ne fasse plus écho, plus signe, qu'elle ne devienne plus qu'archéologie de la dette, fossilisée comme le charbon. Quelquefois, des images anciennes me reviennent en mémoire, comme autant de strates qui ont participé à la construction de mon être insurrectionnel et poétique. Ces derniers temps, je suis envahi par une idée un peu trouble concernant l'éradication des derniers vestiges miniers de la ville de Laricamari, et j'ai le sentiment douloureux d'une tentative d'effacement de lignes de mémoire singulières et uniques, comme s'il s'agissait d'un attentat perpétré contre ce que je suis. Je n'ai que des interrogations, et demeure plus que jamais un être poétique, voyageur de ces humanités qui déposent beaucoup de folie et parfois apportent quelques espaces d'infinie tendresse. Au milieu de la nuit, le visage collé contre le carreau de la fenêtre de la cuisine, l'enfant attend son père. Tout en guettant sur le crassier les flammes aux couleurs bleutées et incandescentes. Un cri dans la nuit, un vol de chouette l'hiver disparaît.
Voilà, donc c'était encore un extrait du livre Char à charbon d'André Perrache. Je propose qu'on écoute un peu de musique pour faire une pause. Et donc, est-ce que tu veux présenter ce qu'on va écouter ? C'est Tutti.
C'est un chanteur de la région qui s'appelle Didier Morin, qui est d'origine manouche et qui joue dans mon spectacle. Puisque dans mon spectacle, il y a un certain nombre de chansons manouches pour montrer un peu la difficulté de langage, du langage des mineurs, qui est un langage un peu particulier. Donc cette chanson est une chanson traditionnelle qui n'a pas un lien direct avec les mines, hein, qui s'appelle Tutti Chi. Tutti Manichi, ça veut dire tu n'as rien, je n'ai rien. C'est une chanson qui est une chanson mélancolique sur la pauvreté d'un voyageur qui n'a que sa roulotte et son vieux cheval et qui essaye d'aller acheter du blé, du foin à manger et puis qui va regagner la forêt avec sa roulotte et son vieux cheval. Et c'est lié d'une manière indirecte, puisque mon grand-père était voyageur, était trimardeur. Il allait chercher le travail dans toute la France, à droite, à gauche. Et quand j'étais enfant, à côté du puits Pigeot, puisque j'habitais à côté du dernier puits de mine de la Ricamari, le puits Pigeot, je me suis souvenu, il y a quelques années, qu'il y avait une roulotte avec un cheval et des voyageurs qui étaient là. Et ils ont commencé à peupler ma mémoire de ce monde-là. Et Tutti Manichi est donc une chanson traditionnelle manouche.
Tutti Manichi, il a chichai, che rasuka mas unimenchi. Anu tsukulon isonekai. Dimentic no vagoni puro grai, la cicciai. Jaginas, anogap mangio buncas. Istrega matreli un chut le char. Icote anovenci mare sintio. Dimentic no vagoni puro grai, la cicciai. Tutti manici la cicciai, o che raso camas unimenci, ani la cimol tu lo mas, i mentic no vagoni prograi i la cicciai. Jaginas, anogap manjo punkas. Bistrega matreli un chute chara. Ikote anovench, in mare sintio. Imentik no vagoni puro grai, ila chichai. Lalei, 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 lalei. Tutti ci, manici, la cicciai. Era su kama suni menci, o anu tsukolon sonekai. Imentik no vagoni puro grai la cicciai, i la cicciai.
Et voilà, donc vous êtes toujours à l'écoute de l'émission numéro 0, Grémos, avec André Perrache dans les studios de Radio Dio. On va enchaîner donc toujours à partir de ton livre « Chair à charbon ». Moi, je t'ai demandé si tu pouvais nous lire un extrait d'un des entretiens de mineurs que tu as fait. Voilà.
Ok, je vais lire un entretien que j'ai fait entre un père et un fils, qui sont descendus tous les deux, qui ont travaillé quelques fois ensemble. Je ne sais pas si je pourrais le lire en entier de ce que j'avais prévu, il est un peu long. Ce jour-là, on n'est pas descendu. La mort avait frappé au fond. Alors on a fait une journée de deuil. Puis bon, après le travail, il a repris comme si rien n'était. Mais là, c'était dur à cette époque-là. Il y avait des tickets pour tout. Quand on travaillait dans des chantiers, il y avait de l'eau. Normalement, on aurait dû avoir des bottes. Mais ce n'est pas toujours qu'on avait... À la place, c'était les sabots. On pouvait espérer une paire de brodequins. C'était difficile d'avoir des brodequins pendant la guerre. C'était difficile d'avoir des brodequins pendant la guerre. C'est plus souvent des sabots. Alors les sabots, il y en avait que c'était des sabots couverts. Alors quand on travaillait dans les endroits où il y avait de l'eau, il n'y avait pas toujours de la poussière. C'était mélangé, il y avait du charbon. Les coups de pied, là, on était toujours blessés. Si on avait des brides de cuir ou autre chose, avec l'eau, c'était vite pourri. C'est souvent qu'on finissait la journée sans les sabots, on marchait pieds nus, bien souvent, quoi. Oh, sous Saint-Étienne, nous, à Villebeuf, on avait point d'eau. Pas une goutte. Et pourtant, là-bas, Verpilleux, c'est pas loin. Il y avait point d'eau, enfin point, c'est pas le mot. Mais il n'y avait pas grand-chose. Il y avait une pompe qui marchait continuellement, comme partout, mais enfin, il n'y avait pas d'eau à crier, quoi. Venez voir, il y a de l'eau, non. Ce qu'il y avait, c'était des poussières. C'est comme le quartier de Flotard, des poussières. Il y avait quelque chose, parce que des silicosés, il y en avait eu son aise, des silicosés là-bas à Flotard. Hein. Passer un moment du côté de Sainte-Marie, là-bas, vous, menthe d'un chien, charbon et poussière, ça amène la silicose, oui. Mais il y a des poussières, des schistes, mieux chargés en silice. Ils sont mieux chargés que le charbon, parce que le charbon, on arrive à le cracher. Mais c'est si mélangé avec la pierre, ça sort pas. Parce qu'on le voit bien, ça fait une pellicule de silice. On le voyait à un certain moment, le charbon, il fait des mises, comme ça. Plus compact. D'ailleurs, on le voit bien, hein. Ça faisait blanc. Ça faisait du silice pur. Pendant la guerre de 14, moi, je ne l'ai pas vu, puis je suis descendu qu'en 19. Mais je l'ai vu après. Quoi? Il faisait bien venir des Grecs. C'était tous des Grecs qui travaillaient dans l'avancement à la pierre. Ils étaient tous cuits. Seulement à ce moment-là, c'était pas reconnu. Et puis, c'est toujours pareil. La pas du gain. Ah oui, des types. Ils prenaient des types qui venaient de là-bas, de Grèce, qui n'avaient pas grand-chose. Ils habitaient dans les campagnes, avec une chèvre ou deux. Alors, on leur promettait mon émerveille, bien sûr. Mais quand ils arrivaient ici, ça, c'est comme les jeunes qui descendaient de la Haute-Loire, là-bas. Ils attrapaient la pelle, ils n'attrapaient pas la meilleure place. Il venait, c'était pour charger le charbon, et allez hop! Et celui qui en chargera le meilleur sera le mieux payé. Et on n'avait pas bien de bonne place dans les mines. Mais les jeunes là, les jeunes qui débutaient, qui ouvraient les portes, il fallait courir d'une porte à l'autre, courir toute la journée. C'est pas que c'était bien pénible, mais il fallait courir. Et celui-là qui menait le cheval, c'était pareil. Quand c'était à plat pays qu'on menait le cheval, à plat pays ça allait. Mais quand il fallait monter par les rampes comme ça, qu'on montait deux étages, on arrivait en haut, quand vous arriviez en haut, il y avait un autre cheval qui attendait, il tenait les bennes et vide, vous preniez les bennes pleines, vous avanciez, il fallait en barrer, on mettait une barre à toutes les bennes, ou toutes les deux. Ça dépend comment la pente était, rapide. C'est que là, il fallait pas oublier de mettre sur pente, parce que le cheval, après, il pouvait pas arracher. Alors on faisait tirer un petit peu, les trois ou quatre bennes qui sont par la rampe de façon à donner la main au cheval pour pouvoir sortir. Il y a des moments où ça se trouvait de bien rouler, ça partait tout. Le cheval, pouh, il tombait en morceaux là. Ha ! C'était pas de la rigolade, hein. C'était des jeunes de 15-16 ans qui touchaient, hein. Le Claudius Crépet, là, quand j'ai débuté, il touchait par la rampe. Il s'est fait casser le bras à l'embranchement, là. Il y avait un embranchement, mais au fond de la rampe, là. Alors il y avait des bennes, des remblais, il fallait mettre les bennes de remblais, il fallait les sortir. Faut pas les faire monter, on montait le charbon à Saint-Joseph. Et là, il avait mis les bennes de remblais, et en mettant les bennes avec le cheval, ça poussait un peu les bennes devant,
Ça a dépassé l'aiguille. Quand il est arrivé, lui, il l'a vu. Il a sauté, le bras pris contre le paravent et la benne. Et là, il a le bras cassé. Ah, là, le Maurice. Je me rappelle, Maurice. Il avait pris 3-4 jours de mise à pied. Car il y avait un cheval qui s'était fait tuer par la rampe. Et puis le suiveur, il avait pris 2 jours. C'était la méthode d'exploitation. Mais qui c'est qui en supportait les conséquences? Alors, on plaignait le cheval, parce que le cheval s'était fait tuer. Si ça avait été le toucheur qui se fasse tuer, il aurait surtout fallu en rester là. L'autre, il a pris une amende. Vous aviez des chevaux qui faisaient clairant. Et s'il se trouvait d'être déféré, on vous disait « Prends celui-là ». Et vous preniez le cheval, mais le cheval en question, il n'avait pas l'habitude de monter et de descendre les rampes. C'était des chevaux qui étaient des marioles. Ils faisaient comme les hommes. Ils s'habituaient. Il y en avait un, quand j'ai débuté, on l'appelait Lusitania. On l'appelait pas Lusitania pour rien. Hein. Rapport qu'il y avait eu un bateau qui avait coulé là-bas. Ce cheval, jamais je l'ai vu caler. Où les autres, ils calaient avec 20 bennes, lui, il en mettait 30, 35, 40. Il partait par la rampe, il surgeait sur les bennes. Et tandis qu'il y en a d'autres, il se laissait pousser. Et puis quand il arrivait à fond, il était coincé, là, entremis. Mais remarquez bien, ça pouvait arriver à celui-là aussi. Mais enfin, c'est pour dire qu'il y en a qui avaient de la chance. Il a fini son temps dehors, a pu faire rouiller ce cheval-là. La locomotive, elle emmenait 30 bennes. Lui, il prenait les 30 bennes et les embarquait. C'est le plus fort que j'ai vu, le plus fort. Ha ! Il y a des choses, c'est incroyable. Hein. Mais c'est vrai. Ce cheval, il a fini sa vie au jour. Mais il y en a d'autres. C'est qu'ils ont passé une drôle de vie. Hein. Quand ils travaillaient dans les chantiers qui étaient de la hauteur de la benne, qu'il fallait passer. Il y en avait qui avaient tout le crâne enlevé. Vous leviez cela comme un rideau. Eh ben, on laissait ces pauvres bêtes dedans. Hein. C'était inhumanitaire. Ah non, il y a des choses, c'est incroyable. Inhumain. C'était inhumain pour les bêtes. C'était inhumain pour les hommes. C'était ben inhumain pour tout le monde.
Voilà, donc c'était un extrait d'un entretien que tu as mené avec deux mineurs, père et fils, anciens mineurs. Ben, on va arrêter là. J'aurais bien eu quelques petites questions de plus, mais je pense qu'on va arrêter. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter pour conclure.
Bon, rien de spécial, si ce n'est que je conseille à tout le monde d'acheter mon livre qui est en vente à la librairie de Paris à Saint-Étienne. Et voilà, vous découvrirez d'autres choses que ce que j'ai dit là aujourd'hui. Vous-même, vous lirez ce que j'ai lu d'une autre manière, avec vos images à vous, qui vous appartiennent, avec votre façon de voir tout ça. Je sais que par contre-coup, maintenant, je sais que les mineurs de la Récamari sont heureux d'avoir ce livre. Ils me l'ont dit. J'étais un peu craintif, j'avais un peu peur de mettre tout ça sur la table. Et je suis très heureux de ce qu'ils en pensent. Voilà.
Et est-ce qu'on peut voir ton spectacle bientôt?
Alors,
tes lectures.
Comment?
Ou tes lectures
Alors, on peut me voir en lecture au mois de juin, le 16 juin, à la médiathèque de la Récamari. Mmh. Et puis, le 3 décembre, on verra une partie de Chair à charbon dans le cadre de la Sainte-Barbe. Je ne sais pas encore dans quelle salle, au Chambon-Feugerolles.
D'accord.
Sinon, on peut me voir sur scène le 15 avril dans un autre spectacle à Morans-les-Bains qui s'appelle Guerrier.
Ok. Bah, super. Bah, merci beaucoup, André.
Merci, oui.
Ouais. Donc, on va finir cette émission du numéro 0 avec un petit agenda, comme d'habitude.
Un agenda vite fait, oui. Alors, on va commencer avec le 2 avril. C'est vendredi, samedi. Oui. Il y a un mouvement national sur la question de la santé qui, a priori, est délaissé par notre gouvernement. Et notamment les hôpitaux, mais aussi la médecine du travail et dans les écoles, etc. Donc à Saint-Étienne, ça va prendre la forme d'un rassemblement devant la préfecture le 2 avril à 11h. Voilà, il y a à peu près une bonne centaine d'organisations qui sont censées appeler à ce rassemblement. Voilà, 2 avril, samedi.
Lundi, c'est ça, on passe à lundi.
Lundi.
Lundi 4 avril, à la plage occupée, c'est au 86 rue de la Sablière, quartier Beaubrun à Saint-Étienne. Il y aura une soirée dans le cadre d'une tournée d'information qui est organisée par l'ABC, c'est l'Anarchist Black Cross. C'est un réseau international de soutien aux prisonniers politiques, pour le dire vite. Et là, c'est une personne de Biélorussie qui vient pour parler de la situation très rude à laquelle font face des activistes anarchistes, écolos, libertaires, etc. en Biélorussie. Il y en a un petit paquet qui ont été emprisonnés, etc. Et donc, il vient pour en parler. Donc, c'est à partir de 20h30, lundi 4 avril, 86 rue de la Sablière.
Voilà. Sinon, on peut juste signaler vite fait que le festival Avataria, de la musique et de la politique, voilà, ça va avoir lieu du 13 au 16 avril. Mais bon, on va en reparler plus sérieusement. Je ne sais pas quand, sur cette antenne.
Lundi midi, il y aura une émission spéciale sur les ondes de Radio Dio pour annoncer ce festival. Et elle va être rediffusée. À mon avis, il y aura plusieurs émissions qui vont annoncer ce festival. Et c'est dommage, on n'a plus le temps, mais il y avait une question qui me brûlait. C'était le fait que ce festival s'organisait au Musée de la Mine depuis plusieurs années, et que les avis sont un peu partagés sur la pertinence du fait de le faire là-bas, ou les ressentis, les avis sont partagés. Et j'aurais bien aimé avoir le tien, André. Mais ou si tu veux, si tu as un avis.
Moi, j'ai un rapport très particulier avec les musées. Je ne sais pas quoi trop en dire. Si ce n'est que des fois ça me plaît absolument pas et d'autres fois je trouve très intéressant. Et j'ai accepté de jouer plusieurs fois moi à Corio, et parce que j'ai fait des rencontres intéressantes. Mais c'est un peu compliqué et il faudrait beaucoup de temps pour en parler. Mais moi j'ai un rapport très particulier, je pense, avec les musées.
Mm-hmm.
Voilà, donc j'ai joué dans les lavabos, dans les grands lavabos qu'on appelle la salle des pendus, mais c'est les grands lavabos. J'ai une salle des énergies aussi, je m'y trouve bien, c'est dur, c'est pas simple, parce que je sais qu'il y a des ombres qui passent, donc c'est un peu compliqué, mais au niveau théâtral et au niveau artistique, c'est très fort de pouvoir travailler dedans, en tous les cas, et je suis content que Philippe Père laisse cette possibilité-là.
Ok, voilà, c'était... La question me brûlait un peu, donc l'émission numéro 0 va toucher à sa fin. On va écouter une dernière chanson pour se quitter, que tu nous as amenée aussi, si tu veux nous la présenter.
« Au Ménégli », c'est une chanson manouche, mais que j'ai écrite moi, qui était traduite par Didier. C'est une chanson, c'est l'histoire, Nigli, c'est un hérisson. C'est un hérisson qui va voir boxer son copain, donc il part avec sa guitare et il va voir boxer... au stadium sur son copain.
Ok, merci beaucoup André.
Merci beaucoup et
merci
on se retrouve pour nous dans 15 jours.
Kirat givo potuke loge sume nigri lo muhomni kamo tuta muji kirat kao kirbo chamare vagi kote momenti alter menge loge sume nigri ni ale o vende ai gitara putrupo Loge so menigli, loge so menigli, loge jo a boudron, daroga funi vetra, ni funi venta.